Vous écoutez, on lit pour vous.
Soufflerons-nous 120 bougies un jour? Un dossier de Nathalie Collard, paru le 4 février 2024 dans La Presse. Préparer sa vieillesse. Ma mère est morte l'an dernier d'un cancer fulgurant à l'âge de 80 ans. Ma grand-mère, ma tante et mon oncle n'ont jamais atteint ce cap. Le cancer les a fauchés avant. Ma cousine, elle, n'avait pas 50 ans. Le cancer fait malheureusement partie de mon histoire familiale. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour améliorer mes chances de vieillir en bonne santé. J'ai découvert que les avancées dans le domaine de la longévité sont hallucinantes. Je ne parle pas de la chirurgie esthétique qui donne l'illusion d'une jeunesse éternelle. Non, je parle d'ajouter plusieurs vraies années à sa vie. Un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, on investit des milliards de dollars dans la recherche sur la longévité et l'anti-vieillissement. Reprogrammation cellulaire, modification génétique, développement de molécules qui réparent les cellules et renversent le vieillissement. Parmi les avancées les plus récentes, une pilule qui simule l'entraînement physique chez les souris, développée par un chercheur de l'Université de la Floride. Perdre du poids et se faire des muscles sans effort, c'est peut-être pour bientôt. Financée par de généreux fonds d'investissement, la science s'attaque à la vieillesse sur tous les fronts. À elle seule, l'Arabie saoudite investit jusqu'à 1 milliard de dollars américains par année par l'entremise du fonds Evolution. En mars, des experts dans le domaine de la longévité participeront à un sommet en Floride. Au programme, des conférences aux titres évocateurs. Peut-on ralentir et inverser le vieillissement? Jeune pour toujours. Ralentir au maximum la vitesse du vieillissement biologique. La vieillesse, pour plusieurs, est devenue une maladie qu'il faut éradiquer, à tout prix. On est encore loin du jour où on pourra rencontrer les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants. Mais il y a des informations précieuses à tirer de cette quête d'éternité. Des principes que le commun des mortels peut appliquer dans son quotidien et qui feront une réelle différence dans 10, 20 ou 30 ans. Comme le dit le docteur Louis Bérère, directeur du centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, rencontré pour ce dossier, on nous apprend à prévoir notre vieillesse en investissant dès un très jeune âge dans notre REER. Pourquoi n'applique-t-on pas le même principe pour notre santé? Courir à 100 ans. Je pense que mon fils de 6 ans fait partie de la première génération d'immortels, me lance Mario Tremblay. Le fondateur de l'entreprise RoboShop est conscient que ses propos en feront sourciller plusieurs. Il a quand même accepté de me parler parce que la longévité est un sujet qui le passionne. Son objectif? Vivre jusqu'à 120, voire 150 ans, en santé. Il y a quelques années, l'entrepreneur a lancé MedFuture, avec pour but d'offrir des services médicaux pour aider les gens à vivre en santé plus longtemps. Au départ, l'idée était d'ouvrir une clinique ayant pignon sur rue. « Je n'avais pas les services que je voulais dans le privé », m'explique cet ingénieur de formation qui a consacré plusieurs années à s'informer sur le sujet. Mais l'homme d'affaires s'est heurté aux règles strictes qui encadrent la pratique de la médecine au Québec, fort différente de celle des États-Unis, où on trouve beaucoup de ces cliniques de longévité. Une des plus connues, Fountain Life, s'apprête d'ailleurs à ouvrir une succursale à Toronto. Son slogan, « 100 ans est le nouveau 60 ». Les cliniques de longévité proposent sensiblement les mêmes services, à prix fort. Un bilan complet de votre santé, prise de sang, scan, ostéodensitométrie, analyse du microbiote, etc., accompagné d'un programme taillé sur mesure pour vos besoins. Les Québécois qui souhaitent avoir accès à ce genre de médecine doivent faire du tourisme médical, se désole Mario Tremblay. À l'heure actuelle, MedFuture est une plateforme numérique qui propose à ses clients un programme personnalisé, basé sur leur bilan sanguin. D'ici quelques semaines, précise Mario Tremblay, on sera en mesure d'offrir des suppléments alimentaires personnalisés selon l'analyse de vos biomarqueurs. Et si tout se passe bien, d'autres services s'ajouteront au fil du temps. Mario Tremblay applique ce qu'il prône. « Je mets les chances de mon côté, » dit-il. « Sa priorité, le sommeil. Je vais au lit vers 20h30 et je me protège de la lumière bleue en soirée. Il mange tôt, vers 17h, pour laisser le temps à son métabolisme de digérer avant de se coucher. Il se permet un verre de vin à l'occasion. L'idée n'est pas d'éliminer les plaisirs, mais les comportements destructeurs, » précise-t-il. Levé à 5h, Mario Tremblay commence doucement la journée par un peu de luminothérapie, de méditation et d'écriture dans son journal. Il faut se prioriser avant de répondre aux demandes des autres, affirme-t-il. Adepte du régime méditerranéen, il pratique le jeûne intermittent et s'entraîne, un mélange de cardio, de musculation et d'exercice d'équilibre, mais il a abandonné tous les sports extrêmes comme le parachutisme, qu'il pratiquait plus jeune, question de réduire les risques d'accident. En plus de suivre ce régime de vie assez exigeant, il ingère entre 30 et 40 suppléments quotidiennement qu'il fait fabriquer selon ses propres paramètres établis d'après la mesure de ses biomarqueurs. Il faut le dire, la question des suppléments est controversée. Les champions de la longévité en font la promotion, mais les effets peuvent varier selon les individus. Une personne qui a des carences peut bénéficier d'un supplément de vitamines ou de minéraux, mais il est difficile de prédire l'effet chez une personne sans carence, souligne le Dr Louis Bérère, directeur du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Le Dr Bérère reconnaît toutefois que les découvertes dans le domaine se bousculent. L'étude COSMOS, publié en décembre dernier, révèle par exemple que la prise quotidienne de multivitamines peut avoir un impact positif sur la mémoire des 60 ans et plus. Le metformine, un médicament prescrit pour le diabète de type 2, aurait des propriétés protectrices anti-vieillissement. La rapamycine, le resveratrol et le NAD, ou nicotinamide, adénine, dinucléotide, pour ne nommer que ceux-là, font également partie de la pharmacopée des champions de la longévité pour leur supposé impact positif sur l'énergie et contre le vieillissement. La recherche avance, observe le Dr Bérère. J'aurais envie de vous dire « stay tuned ». Mario Tremblay, lui, fait une distinction entre son âge chronologique et son âge métabolique qu'il attribue à son mode de vie strict et à la prise de suppléments. « J'ai 52 ans, mais j'ai le métabolisme d'un homme de 41 ans », lance-t-il. « À 50 ans, j'ai reçu un diagnostic d'arthrose cervicale et mon médecin m'a conseillé d'arrêter de courir. J'ai plutôt cessé le médicament contre l'arthrose qu'il m'avait prescrit, et couru 50 kilomètres, me raconte-t-il. Mon objectif, c'est d'ajouter 1 kilomètre par année jusqu'à 100 ans pour pouvoir courir avec mon fils. Vous écoutez? Soufflerons-nous 120 bougies un jour? Un dossier de Nathalie Collard, paru le 4 février 2024 dans La Presse. La longévité, une bonne affaire. Sam Altman, célèbre dirigeant d'OpenIA, a investi 180 millions de dollars américains dans Retro Biosciences, une jeune pousse qui promet d'ajouter 10 années en santé à notre espérance de vie. Il n'est pas le seul homme d'affaires à rêver d'éternité. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Larry Page ont aussi investi dans la recherche sur la vieillesse. Les entrepreneurs de la Silicon Valley investissent des petites fortunes dans des entreprises en démarrage qui promettent de résoudre les secrets de la longévité. Nanotechnologie, intelligence artificielle, robots, imprimantes 3D. Certaines recherches ressemblent à des romans de science-fiction. Le porte-étendard de cette tendance aux États-Unis se nomme Brian Johnson et il est son propre cobaye. Vous avez peut-être déjà vu des images de cet homme au teint cireux et aux abdos découpés au couteau. Âgé de 46 ans, il se vante d'en avoir l'air 10 de moins et promet que cette jeunesse éternelle est à portée de tous, à condition d'adhérer à Blueprint, son programme de suppléments, qui, assure-t-il, lui a permis de renverser l'œuvre du temps. La lutte contre le vieillissement est un marché lucratif qui pourrait générer jusqu'à 600 milliards de dollars américains en 2025, selon les analystes de la Bank of America. Dans les librairies, les livres sur la longévité cartonnent. Outlive, du Dr. Peter Attia, vanté par Oprah Winfrey, figure sur la liste des titres les plus vendus du New York Times depuis presque un an. Life Force, du motivateur Tony Robbins. Life Span, du Dr. David Sinclair, de l'Université Harvard, ainsi que les Blue Zones de Dan Buettner, dont la série documentaire est actuellement offerte sur Netflix, se vendent tous très bien. Même phénomène en France, où, ces jours-ci, le Dr. Frédéric Saldman, auteur de « Votre avenir sur ordonnance », est invité à tous les micros pour parler de l'optimisation du capital santé. Une question d'attitude. Le Québécois Éric Simard s'inscrit dans cette mouvance. Biologiste de formation, il s'apprête à lancer son 5e livre sur la longévité, dans lequel il abordera la question de la prévention. « Il y a encore quelque chose du vieillissement qu'on ne comprend pas », me lance-t-il au téléphone. Selon lui, la vieillesse ne doit pas être vue comme une maladie, mais comme une dysfonction cellulaire. L'homme d'affaires a lui aussi sauté dans le train de la vente de suppléments. Son entreprise, Idon Technology, commercialise une gamme de produits à base d'extraits de plantes développés avec un biologiste de l'Université Concordia. Les résultats ont fait l'objet d'un article révisé par les pairs dans la revue OncoTarget. Au-delà des suppléments, Éric Simard aimerait que les gens réalisent à quel point les habitudes de vie peuvent faire une énorme différence et retarder les maladies associées au vieillissement. La majorité de la population ne comprend pas. On ne leur dit pas qu'ils ont un pouvoir sur leur santé. On donne des médicaments pour les maladies cardiovasculaires qui réduisent les risques de 20 %. Mais monter 50 marches chaque jour donne les mêmes résultats. Ce n'est pas vrai que la maladie est une loterie, estime Éric Simard. Le biologiste, qui est également président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, croit dur comme fer que la longévité est aussi une question d'attitude. Comptent en commun les centenaires, lance-t-il. Ils sont ricaneurs, d'agréable compagnie, consciencieux, actifs. Si on veut vieillir en santé, il faut améliorer sa personnalité, devenir plus positif. Les conditions gagnantes de la longévité. Le discours qui fait reposer les déterminants de la santé sur les épaules des individus hérisse le professeur de bioéthique Bryn Williams-Jones. À mon avis, le danger, c'est qu'on en fait une question individuelle, plutôt que de poser la véritable question. Comment se fait-il que certaines personnes de plus en plus aisées vivent plus longtemps, alors que l'espérance de vie plafonne et qu'elle est en train de chuter aux États-Unis? Selon le directeur du département de médecine sociale et préventive, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, les véritables facteurs qui ont une influence sur la longévité se trouvent ailleurs. Ce sont des trucs de base, comme l'eau potable, la contamination de l'environnement, l'urbanisme, etc., avance le professeur Williams-Jones. Une personne peut bien faire ses devoirs en voulant bien manger et faire de l'exercice. Mais si tu vis dans un quartier défavorisé, que tu as une job de merde et que tu n'as pas accès à une alimentation de qualité, Parce que ton épicerie, c'est le dépanneur. On ne peut plus parler d'un choix individuel, affirme Bryn Williams-Jones. Les statistiques lui donnent raison. L'espérance de vie au Canada, par exemple, varie selon le groupe de personnes et le statut socio-économique, souligne Statistique Canada dans une étude sur la mortalité chez les adultes noirs publiée l'an dernier. Il y a un paradoxe entre le discours très technologisant sur la longévité et le recul des investissements en santé publique, ajoute Virginie Manus, doctorante en bioéthique et membre de l'équipe dirigée par le professeur Williams-Jones. On est dans des promesses transhumanistes, mais la santé publique demeure l'enfant pauvre du système médical. On ne lira jamais « Tant de gens n'ont pas chuté sur le trottoir aujourd'hui parce que les trottoirs étaient déneigés », renchérit le professeur Williams-Jones. La prévention, ça se vend mal, car on ne peut pas la mesurer. Ça n'intéresse pas les politiciens. Pourtant, si on améliore la qualité des trottoirs, tout le monde gagne. C'est triste d'opposer le curatif et le préventif, ajoute Virginie Manus. Les meilleurs systèmes de santé sont ceux qui réconcilient les deux. Vous écoutez « Soufflerons-nous 120 bougies un jour? » Un dossier de Nathalie Collard, paru le 4 février 2024 dans La Presse. Un autre rapport au temps. Dans un contexte où les médecins sont aussi des entrepreneurs payés à l'acte, on peut se demander quel est leur intérêt à faire de la prévention et outiller leurs patients afin qu'ils vieillissent en santé. Or, le professeur Williams-Jones observe un changement d'attitude chez les plus jeunes. « Il y a un ras-le-bol du modèle actuel », affirme le professeur de bioéthique. « C'est déprimant pour ces jeunes médecins de voir revenir le même patient et de constater que son état ne s'est pas amélioré. Alors, il se tourne vers un autre genre de prescription. Au lieu d'une pilule, le médecin recommande donc d'aller jouer dehors, de manger mieux, etc. C'est ce qu'on appelle la prescription nature, de plus en plus répandue. L'acte d'ordonnance est toujours là, précise le professeur Williams-Jones, car il comporte une autorité morale qui peut faire une différence chez certains patients qui auront tendance à obéir à la recommandation parce qu'elle vient d'un médecin. Mais au-delà des régimes de vie et de tous ces bouquins pour vieillir en santé, c'est tout le rapport à la vieillesse qui est à repenser, selon les deux chercheurs. L'âgisme est un fléau mondial, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé en 2021. « On va tous y passer », souligne Virginie Manus. « C'est important de préserver son autonomie le plus longtemps possible. » Cela dit, le corps vieillit, et il faut aussi accepter que les choses soient plus lentes, qu'on n'est plus dans le même temps. Pourquoi vouloir rester à tout prix dans la même dynamique que lorsqu'on avait 40 ans et qu'on était super productif? Le raz-de-marée des problèmes cognitifs. À la mi-janvier, la Société Alzheimer du Canada a lancé une petite bombe. D'ici 2050, de pair avec le vieillissement de la population, les cas de troubles neurocognitifs pourraient augmenter de 145 % au pays. On diagnostique un cas de démence toutes les 3 secondes dans le monde, me confirme le neuropsychologue Louis Bérer, qui dirige le centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Imaginez un pays grand comme l'Allemagne rempli de gens atteints de démence, décrit-il. C'est ce qui nous guette d'ici 20 ans. Je reprends les mots du docteur Régent Hébert. Ce n'est pas un tsunami qui nous menace, c'est un iceberg. Parce qu'on voit le problème se pointer depuis longtemps. Mais la gravité, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui se cache sous l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de faire dévier l'iceberg, ou du moins d'en réduire la taille, selon le docteur Bérère. On pourrait diminuer le nombre de cas de démence dans le monde d'environ un tiers juste en modifiant notre mode de vie. Les études longitudinales sur une période de 10 ans le démontrent. Les gens qui font un exercice modéré à intense, 3 fois et plus par semaine, ont de 30 à 40 % moins de chances, à long terme, de développer la démence, rappelle le docteur Louis Bérère. Maximiser ses ressources. Le docteur Bérère m'avait donné rendez-vous dans son laboratoire, un gym percé de grandes fenêtres situé au troisième étage du centre EPIC, rue Saint-Zotique. Ce centre, unique au Québec, se spécialise dans la prise en charge des gens qui ont connu des événements cardiaques, mais il est aussi ouvert au grand public qui souhaite garder la forme. On n'est pas ici pour ajouter des pilules, mais pour changer le mode de vie des personnes, lance le neuropsychologue spécialisé dans le vieillissement du cerveau et professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal. Les cobayes du Laboratoire d'études de la santé cognitive des aînés, LESCA, sont recrutés à l'Institut de cardiologie, voisin du centre. En gros, l'équipe du Dr Bérère les soumet à un entraînement physique et cognitif précis qui fait l'objet d'un monitorage. Les résultats sont probants. Quand on vieillit, on observe un ralentissement de notre cerveau, résume le Dr Bérère. La mémoire peut être moins efficace. Or, on a un rôle à jouer pour combattre ce déclin. On n'est pas déterminé par nos gènes. On peut maximiser notre vitalité cognitive. L'exercice permettrait même de renverser les signes du déclin chez certains patients. C'est ce qu'illustre l'article scientifique publié par le Dr Bérère et son équipe l'été dernier dans le Journal of the American Medical Association, JAMA. L'étude en question, a classé dans la catégorie « nouvelles positives », démontrait qu'un programme combiné d'exercices physiques et cognitifs, suivi sur une période de 6 mois, réduisait les symptômes chez des patients atteints de troubles légers de la cognition, c'est-à-dire des individus à très haut risque de développer une démence par rapport aux gens normaux de leur âge. On a frappé fort dans une revue médicale prestigieuse, se réjouit le Dr Bérère. C'est très difficile de faire ça quand tu ne vends pas des molécules. Le neuropsychologue regrette qu'on consacre si peu de moyens à la recherche en prévention. Les standards scientifiques pour développer, tester et mettre en marché une molécule, comme un médicament, sont toujours extrêmement élevés, alors que dans la recherche sur le style de vie, il y a beaucoup moins de ressources. On n'exige pas le même niveau de preuve, la même rigueur. C'est une chose que nous, au Centre EPIC, on essaie d'instaurer. Comme directeur scientifique, quand je mène une étude sur les bienfaits de l'exercice, je veux qu'on le fasse avec la même rigueur et les mêmes hauts standards scientifiques que si on testait une molécule. Vous écoutez? Soufflerons-nous 120 bougies un jour? Un dossier de Nathalie Collard, paru le 4 février 2024 dans la presse. L'exercice, un vrai moteur. De tous les facteurs qui peuvent avoir un impact positif, le Dr Bérère estime que l'exercice physique est le plus fort prédicteur d'une vieillesse en santé. Il y a toutes sortes d'effets indirects liés à l'exercice, avance-t-il. Un meilleur sommeil, l'empowerment, c'est-à-dire le sentiment que ressent le patient de se prendre en main et d'être omnipuissant. Ce n'est pas long. Chez une personne qui s'entraîne, d'observer des changements positifs dans les autres secteurs de sa vie. Aux effets psychologiques positifs de l'entraînement physique, il faut ajouter les nombreux effets physiologiques. Quand on fait de l'exercice physique, nos organes produisent des protéines et des molécules qui ont des impacts sur la plasticité cérébrale et la plasticité vasculaire, soit la capacité des vaisseaux sanguins à répondre à la demande. L'exercice physique peut même réactiver certains circuits de neurones, ce qui aide le cerveau à s'adapter à l'effort. L'exercice est un moteur énorme, nous dit le docteur Louis Bérère. Comment expliquer que malgré toutes ces recherches et ces connaissances, nos médecins nous parlent si peu de prévention? Se préparer à vieillir ne fait pas partie de la réflexion nulle part, reconnaît le docteur Bérère. Je ne suis pas médecin, poursuit-il. Ce n'est pas moi qui vois les patients dans mon bureau. Mais quand un médecin passe une demi-heure à parler de prévention avec un patient, il ne peut pas facturer un acte précis. Or, les médecins sont des gens d'affaires, je les comprends. La prévention n'est pas suffisamment appuyée et encouragée. Il faudrait donner aux médecins les moyens d'en faire plus. À lire ce qui se passe ces temps-ci dans les CHSLD et les urgences des hôpitaux, à voir la pénurie de main-d'œuvre et son impact sur les soins aux personnes âgées, je me dis qu'on a intérêt à vieillir en santé. Le quart de la population québécoise aura 65 ans en 2030. C'est bien beau espérer vivre jusqu'à 20 ans, mais qui veut passer les dernières décennies de sa vie malade? Notre système de santé doit consacrer beaucoup plus d'efforts à la prévention. Ça presse. Les piliers de la longévité. Au-delà des avancées scientifiques et des recherches hyper pointues sur le vieillissement, on peut adopter des habitudes qui auront un impact à long terme sur notre santé et notre bien-être. Manger. Le régime méditerranéen est privilégié. Beaucoup de légumes verts, du poisson, des noix, peu ou pas de viande rouge. Et l'alcool? Les effets de l'alcool sur la santé font l'objet de beaucoup de débats et de discussions, avance le docteur Louis Bérard. Par contre, le contexte, un verre entre amis, l'aspect relaxant, peut avoir des effets bénéfiques. Dormir. Le sommeil est primordial et la routine est privilégiée. Faut-il le répéter? Les écrans ne favorisent pas une bonne nuit de sommeil. Vaut mieux les tenir à distance. Bouger. En gros, un exercice modéré au moins 3 fois par semaine avec au moins 2 périodes à plus forte intensité, VO2 max, aura des effets bénéfiques. Et des études ont démontré que des séances au sauna, si votre santé le permet, sont aussi très bonnes pour la santé. Réfléchir. Apprendre une langue, lire, jouer à des jeux vidéo ou qui exigent une certaine concentration sont tous d'excellentes habitudes qui ont un impact positif sur la santé cognitive. Parler. On peut bien manger, bien dormir et faire de l'exercice, mais si on vit isolé et sans interaction sociale, ces habitudes n'auront pas l'impact voulu. Parler ou voir des amis ou des membres de sa famille plusieurs fois par semaine est excellent pour la santé et la longévité. C'était « Soufflerons-nous 120 bougies un jour? » Un dossier de Nathalie Collard, paru le 4 février 2024 dans La Presse.